I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Coucou, c'est Pinjojo. Chers auditeurs, voilà, là c'est vraiment la fin de la première saison du Cœur sur la table. Dans tous les épisodes, on a insisté sur le fait que nous voulions que ce programme soit le début d'une grande conversation. Et je crois qu'on a réussi. Dans les milliers de messages que vous nous avez envoyés, on a été ravis de lire que vous les faisiez circuler, ces épisodes. Et puis le livre aussi, que vous les envoyiez à vos proches et qu'ils vous servaient de base de discussion dans vos couples ou dans vos groupes d'amis. Pour prolonger encore cette expérience, voir certains et certaines d'entre vous en vrai, entendre vos critiques, vos remarques, dissiper éventuellement certains malentendus, plusieurs soirées de rencontres et de dédicaces ont été organisées cet automne par des librairies indépendantes à Paris, Strasbourg, Lyon et Nantes. Ces discussions ont été enregistrées et ce sont ces échanges que nous vous proposons d'écouter maintenant parce qu'on s'est dit que certaines des questions posées allaient résonner avec les vôtres. Avant d'aller à Nantes, on commence à Paris, à Issy Grand Boulevard, dans l'une de mes librairies préférées, parce qu'elle est immense, bien éclairée, très agréable, avec une sélection bien pensée, et qu'on peut y boire des cafés. C'était le 13 octobre 2021. La veille, avec Binge Audio, on avait fait une grosse fête dans une boîte de nuit, le Badaboom, pour la fête de lancement du livre et celui de la collection sur la table. On avait appelé ça le Badabinge, et c'était beau et joyeux. Et à la librairie, c'est Elodie qui me pose des questions. Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes et à tous.
Ma première question, Victoire, après t'être intéressée aux masculinités, c'est à l'amour que tu te consacres ta nouvelle série. Pourquoi s'intéresser au cœur, Victoire ?
Ok, merci. Alors, pourquoi s'intéresser au cœur ? En réalité, quand j'ai eu l'idée des couilles sur la table, je voulais aussi, j'avais deux idées concurrentes. En fait, je voulais aussi faire un travail sur l'amour. Il se trouve que pour plein de raisons et qui sont aussi dues à ma socialisation féminine, c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup, très fort. Mais j'ai été encouragée à faire ce documentaire, à me dire « Ok, vraiment là, il faut y aller » parce que je voyais bien que toutes les réactions ou beaucoup de réactions suite aux épisodes du podcast « Les couilles sur la table » ou quand j'ai fait des rencontres en librairie, quand on a sorti le livre, quand j'ai écrit le livre, en fait, les questions les plus spontanées qui reviennent tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces savoirs et des conséquences que ces prises de conscience ont dans nos vies, en fait. Et donc, très concrètement, ça veut dire... il y avait d'innombrables femmes qui disaient « Qu'est-ce que je fais avec mon mec ? Comment est-ce que je peux faire autrement pour pas subir autant de sexisme dans ma vie ?» Enfin, bon, ce que je peux résumer par cette phrase de « En fait, un jour, on va mourir », c'est vrai. Enfin, et que aussi, le patriarcat est un système très puissant et durable, et donc très probablement, on n'en verra pas la fin avant notre mort. Donc, soit on se dit « Bah, du coup, il n'y a rien à faire », soit on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Non pas en étant résigné, mais en fait, en luttant, et à la fois en essayant de pas être trop malheureux et malheureuse. Et donc, non pas de s'en accommoder, mais de voir qu'est-ce qu'on fait à partir de ça. Et donc, la raison pour laquelle je me suis intéressée à l'amour, c'est parce qu'il me semblait, et maintenant, je veux dire, c'est évident, le livre de Mona Chollet le montre très bien, il y a plein de réflexions qui le montrent très bien, mais pas que cette année, en fait. C'est des réflexions féministes sur l'amour, elles existent depuis que le mouvement féministe existe, en fait, puisque le féminisme remet en question absolument tous les domaines de nos vies, toute notre façon de penser, toute notre façon d'agir, etc. Donc, et il est évident que ce qui était en train d'être questionné dans cette période post-MeToo, là, dans laquelle on est, c'était nos sentiments, la forme de nos relations et tout ce qui est micropolitique, en fait, nos interactions, comment on se parle, comment on se touche, comment on fait du sexe et tout. MeToo, ça a donné lieu à ce genre de conversation. Et en même temps, il y avait tous ces débats sur la charge mentale, il y avait tous ces débats sur le corps, la façon dont on représente le corps des femmes, etc. Bon, et donc on se rapprochait, en fait, du cœur de l'oppression, et donc du cœur et de l'amour, voilà. Et qu'à la fois, c'était pas seulement de dire ça va nous faire questionner nos relations et tout ça, mais moi, je crois qu'à un autre niveau, toutes ces réflexions féministes, elles sont aussi en train vraiment de réinventer et de redonner des sens nouveaux à l'amour et à ce que signifie aimer. Ça nous force à réfléchir à ça, voilà. Et tout ça est très joyeux.
Et quelle est cette révolution romantique dont tu appelles de tes vœux?
Ouais. En fait, c'est pareil. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Costanza Spina et qui, dans Manifesto 21, avait écrit ce texte pour dire nous sommes en train de vivre une grande révolution romantique intersectionnelle. Et ce qu'elle expliquait, donc j'ai reproduit une partie de son texte dans le livre à la fin, c'est qu'en fait elle voyait des liens entre le retour des sorcières décrit par Mona Chollet, l'intérêt pour l'écoféminisme, la remise en cause de la rationalité froide et androcentrée, le fait que on fasse de plus en plus attention aux émotions, le fait que évidemment tous les mouvements, là le mouvement MeToo, tous les mouvements de politique d'émancipation remettaient en question non seulement un ordre du monde injuste, mais aussi les relations, que les gens se posent énormément de questions sur ça. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose. Et donc, c'est cette révolution romantique dont elle parle. Et aussi, Paul B. Preciado, le philosophe, dit qu'on est à ce moment-là révolutionnaire aussi de remise en question du genre. Et que voilà, et tout ça, en fait, ça fait qu'on est en train de réinventer et de révolutionner la culture dans laquelle on baigne. Et on le voit, ça provoque d'ailleurs des grosses tensions, ça provoque plein d'incompréhensions, plein de conflits et tout. Mais je sais pas s'il y a eu des époques où on s'est autant, enfin, peut-être il y a quelques décennies, on s'est autant posé de questions sur comment faire autrement, où on a autant remis les choses en question, je crois pas.
Est-ce que tu penses que l'amour est politique ?
À l'évidence.
Ouais.
Ouais. Ah oui, il faut que je détaille sur pourquoi l'amour c'est politique.
Non, mais, après.
Oui.
Ouais.
Mais oui, oui. Mais oui. Enfin, et là, je pense, ouais. Du coup, si vous êtes là, genre, vous savez, vous comprenez pourquoi on dit l'amour c'est politique et tout ça. Mais aussi, parce qu'en fait, on aurait pu faire un doc hyper philosophique sur qu'est-ce que c'est, la nature de l'amour et tout. Et si par exemple, là, on me dit, mais en fait, c'est quoi l'amour? Je suis incapable de répondre. Par contre, ce qui nous intéressait, c'était de nommer des pratiques aimantes. Voilà. Et de dire. À quoi ça ressemble en pratique l'amour? Et ça, c'est encore une fois le philosophe Paul B. Preciado qui m'avait dit ça une fois, il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Il m'avait dit non, mais en fait, ton sujet, c'est pas le concept de l'amour, la philosophie de l'amour et tout, c'est pas ça. Il faut que tu dises en pratique à quoi ça ressemble. Voilà. Du coup, ce qui nous permet de différencier des pratiques qui sont aimantes, d'autres qui n'en sont pas. Et encore une fois, ça nous permet de reconnaître l'amour là où il existe, pour de vrai, et donc pas forcément dans le couple. Il y a plein de couples où il n'y a pas d'amour vraiment qui circule, mais dans toutes sortes de relations, en fait, avec nos familles et avec nos amis et tout ça, et de dire que ce n'est pas du tout une forme d'amour moins valable que l'amour romantique.
On va vous faire circuler un micro, voilà, pour poser toutes vos questions.
Quelqu'un veut commencer? Ouais, c'est dur, hein, la première question, souvent. Ouais.
Bonsoir, ça me bonsoir. Permet d'embrayer directement sur ma question. Moi, je me demandais, quand tu écris ce livre, est-ce que tu dis c'est plutôt adressé aux femmes, aux hommes? Est-ce que tu réfléchis en fonction de comment tu vas tourner les choses, par qui tu vas être lu? Voilà, parce qu'on parle beaucoup du féminisme en ce moment et j'ai l'impression aussi que des fois, les choses ne sont pas forcément bien interprétées. Des concepts sont un peu repris ou alors mal compris.
Tu penses à quoi, par exemple?
Moi, j'ai l'impression que, par exemple, dans mon groupe d'amis, le féminisme, pour les garçons, ils en ont un peu ras-le-bol. moi, par exemple, voilà, le féminisme, ça m'a beaucoup apporté. Et peut-être que j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas autant, nous, ce que ça peut nous apporter. Et je me demande, quand tu écris ton livre, est-ce que tu te dis, je l'écris plutôt pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde ? Est-ce que je l'écris différemment en fonction du public auquel je m'adresse ou pas ?
Quand on... Alors... comment je me dis ? Bon, j'avoue que maintenant, ce que pensent les mecs, comment ils... ça ne m'intéresse plus beaucoup. Voilà. Donc en fait, en fait, je voulais vraiment faire ce truc de... En fait, avec un ton un peu de self-help, voilà, qui sont des trucs pour s'aider, tu sais, soi-même. Et je... Non, je pensais plutôt à des meufs, en fait. Voilà, aux femmes. Alors je me disais, bon, certainement des jeunes féministes. Parce qu'en fait, bon, il y a plein de trucs qu'on raconte dedans. Si vous êtes super spécialiste en féminisme et tout, c'est sûr, le cœur, on n'apprend rien dedans. Enfin, je comprends et je ne l'ai pas fait pour ça, en fait. Je l'ai fait pour en me disant... c'est encore une autre façon d'amener des savoirs, d'amener des théories, d'amener... On se disait, dans chaque épisode, il faut qu'il y ait au moins un ou deux essais résumés, que ça link comme ça vers d'autres. Voilà, donc et en même temps, j'essayais d'imaginer... oui, toutes sortes de femmes différentes. Voilà. Est-ce que ça allait leur apporter quelque chose ? Et vraiment, on n'arrêtait pas de se demander, est-ce que ça, c'est utile ? Ça sert à rien, on virait des paragraphes entiers, on remettait des trucs, voilà. Mais plutôt pour des femmes, ouais.
Bonsoir.
Bonsoir.
Déjà, merci beaucoup pour ce podcast. Et je pense que, enfin, pour apporter un témoignage personnel, moi, je suis la fille d'une féministe qui s'est toujours revendiquée féministe, etc. Et moi, j'ai longtemps été anti-féministe parce que je trouvais que c'était un peu les chieuses. Ma mère, elle était à la barbe et je trouvais que vraiment, elle faisait chier tout le monde.
Tout le monde voit ce que c'est, la barbe ? Non. Tu veux expliquer ou...
Ouais, ben, La Barbe, c'est un collectif féministe qui fait des happenings, en gros. Et donc, ils vont dans des assemblées où il y a majoritairement des hommes, enfin, à 99% des hommes. Et elles mettent des barbes et elles disent que ben, la seule manière de se faire entendre, c'est d'avoir une barbe dans ces collectifs.
Et ça rend les mecs furieux.
Oui, et il y a des réactions assez hallucinantes de mecs. Mais moi, je trouvais que vraiment, elles exagéraient. Enfin, voilà. Et je pense que c'est un peu aussi... Moi, une de mes difficultés de tous les jours, et je trouve que ce podcast y apporte aussi une partie, une réponse, c'est savoir un peu comment tenir sur ses positions, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ma mère n'était pas féministe juste pour être une chieuse, et que même si à chaque instant, elle n'était pas féministe dans ses décisions, etc., c'était aussi une vie à vivre. Et je trouve que dans les relations hétérosexuelles, parce que moi, je suis hétéro, c'est aussi une difficulté permanente, en fait, de trouver... qu'est-ce qui sont des valeurs non négociables et qu'est-ce qui, en même temps, sont les petits compromis qu'on fait parce qu'à un moment ou à un autre, on est avec un mec et qu'on se dit que c'est quand même bien et comme vous le dites, il y a notre cœur qui bat. Et je pense que c'est un peu, moi, toujours ma difficulté dans le féminisme parce que je lis plein de trucs et je suis super en colère. Et en même temps, il se trouve que je suis hétéro et je pense pas que ça soit un choix. Donc, faut aussi apprendre à vivre avec. Et je trouve que le cœur sur la table est en partie une réponse et qu'il y a de plus en plus ce féminisme qui donne des solutions et qui, enfin, pas qui donne des solutions, mais qui est aussi dans la joie. Moi, je trouve que le bouquin d'Alice Coffin était beaucoup sur ça aussi, alors que je suis pas lesbienne. Ou le bouquin de Mona Chollet, évidemment, le dernier. Mais du coup, voilà, c'est un peu, où est-ce que vous mettez les limites et pour voir, vous, quelles sont un peu les solutions à trouver pour allier féminisme et en même temps une relation qui puisse être épanouie. Et si je peux ajouter juste une rapide deuxième question, vous dites que vous avez fait ce livre pour les hommes, pour les femmes. Et je sais que quand le bouquin de Mona Chollet est sorti, il y a aussi beaucoup une critique en disant que c'est des femmes qui allaient l'acheter et qu'en fait, c'était déjà les femmes qui avaient la charge mentale et la charge émotionnelle et que c'était de nouveau à elles de réinventer l'amour. Et un peu du coup, vous, votre bouquin, il est pour les femmes, mais comment est-ce qu'on peut aussi tenter de motiver les hommes à aussi réinventer l'amour et en même temps, pas être en permanence à devoir leur expliquer. Enfin, parce que moi, j'ai fait ça beaucoup avec mes ex et c'est aussi épuisant, quoi. Donc voilà, deux questions pour le prix d'une.
Bon, alors sur la première question, comment on fait ? Vraiment, toutes sortes de réponses sont dedans. Que du coup, je peux pas trop... en fait, c'est tout ce qu'on a dit, tout ce que... Donc, en proposant plein de pistes de solutions, mais encore une fois, j'insiste, c'est pas que des solutions individuelles, en fait. En fait, ça passe nécessairement ce qui va révolutionner l'amour et ce qui va changer la forme de nos relations, c'est des changements structurels, des changements politiques. Ça passe par des luttes, ça va passer par des conflits, ça passe par le fait d'aller s'engager, ça passe par le fait de militer, ça passe par le fait d'imaginer des politiques publiques complètement différentes. Enfin, c'est tout ça, en fait, qui va très concrètement révolutionner l'amour et nous permettre de vivre d'autres types de relations. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, sur les mecs, ah oui, alors comment on fait, les mecs? Ouais. Mais... Non, mais en fait, à un moment, parce qu'en fait, je suis un peu saoulée, parce que, enfin, pas du tout par cette question, hein, mais disons, moi-même, je suis arrivée à un degré de lassitude, de, en fait, je vois bien que, ouais, j'ai un patron qui dit, on fait pas boire un âne qui a pas soif. Vraiment, les gars, ils, tu vois là, tu vas pas les forcer, enfin. Tu... Par contre, je pense que, après, ce qui arrive, c'est que tu n'es, bah, à mon avis, tu n'es plus attirée par des mecs que ça n'intéresse pas, en fait. Voilà. Moi, je dis pas que j'y suis complètement arrivée, mais enfin, en tout cas, je suis très heureuse dans ma vie affective pour cette raison-là, c'est que je peux plus supporter des rapports inégalitaires en fait. Ça m'attire plus du tout, ça m'intéresse plus du tout et tout ça. Et donc après, moi, changer les mecs, ça m'intéresse pas trop quoi. Par contre, faire en sorte que les meufs soient assez et assez de pouvoir et regagner assez de verticalité, de confiance en elles, d'ancrage dans leur corps, de qu'elles aient renforcé les liens les unes avec les autres et tout, justement pour avoir les moyens de plus du tout être attirées par les abrutis, les connards, les misogynes, les sexistes et tout ça. Voilà, ça me paraît plus prometteur. Mais après, ça ne veut pas dire que le, voilà. Enfin, après, il y en a qui veulent bien comprendre. Et du coup, bah, c'est super. Il y a des mecs hein, qui écoutent le cœur sur la table. C'est juste, je suis un peu désabusée parce que c'est vrai qu'en plus, là, je viens de me prendre une vague de lettres de mecs qui, en fait, ils disent qu'ils écoutent le cœur sur la table, mais encore une fois, tout ce qui les intéresse, c'est cette possibilité pour surtout ne pas s'engager. Donc, je. Voilà. Mais bon. Non, mais c'est vrai, je veux dire, le pouvoir, ça fonctionne de façon fascinante, en fait. C'est toujours ça, quoi. T'as beau expliquer la même chose 70 fois, de 70 façons différentes et tout. Si t'es un gars que t'as envie de l'interpréter de telle façon, est-ce que ça t'arrange toi, tu vas le faire. Voilà. Donc, à un moment, bon.
Bonsoir. Je voulais revenir sur le fait que votre travail s'adressait plutôt à des femmes, parce que en fait, moi, je me sens extrêmement concerné par ce que vous faites, et pour la simple raison qu'en fait, je suis gay, et du coup, je me suis rendu compte, enfin, ce que votre podcast m'a apporté, c'est de voir à quel point, en fait, les relations homosexuelles, on pourrait se dire, ah bah, si c'est l'hétérosexualité, la symétrie de genre et tout ça qui pose problème, qui crée autant d'inégalités, on pourrait se dire, ah bah, il suffit d'être homo, ça résoudrait le problème. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point dans les relations homosexuelles, on reproduisait énormément de schémas qui venaient des schémas hétérosexuels et des schémas patriarcaux. Et par exemple, rien que actif-passif, par exemple, si les gens connaissent pour les gays, j'ai vraiment pris conscience d'à quel point, en fait, on rejouait une asymétrie à chaque fois dans ce choix-là. Ou encore, par exemple, dans la consommation des... Enfin, il y a une culture un peu du plan cul chez les gays, on a des applications pour ça, etc. Et pareil, le fait à quel point c'est codifié ou comment il y a une codification inégalitaire qui se fait à travers ça. Et du coup, ouais, votre podcast, il m'a apporté énormément, énormément, énormément sur ça. Et voilà, entre autres. Et pour autant, je trouve que dans les épisodes, c'est pas forcément l'angle qui est choisi d'aborder tous les types de relations amoureuses. Et je voulais savoir pourquoi c'était le cas. Est-ce que c'est par votre propre positionnement ou est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça pourrait être abordé plus tard, etc. Merci beaucoup.
Merci. Bah, merci pour tout ce que vous avez dit. Alors, c'est vrai que, par exemple, dans le podcast, quand vous disiez tous les types de relations, par exemple, pourquoi il n'y a aucun homme homosexuel qui s'exprime dans le podcast?
Je sais même plus, en fait, si c'est le cas ou pas. Il y en a pas, je pense,
non,
je sais pas.
Il y en a pas.
Mais ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai pas ressenti, en me disant, je me suis pas directement dit, ah zut, il manque des gays. Je me suis dit, c'était pareil, en fait. Ce que je me suis dit, mais c'est incroyable, le parallèle qui est fort entre les deux. Alors qu'on pourrait se dire que non, c'est proprement hétérosexuel, alors qu'en fait, pas du tout.
Et oui, parce qu'en fait, c'est une question d'hétéronormativité, de rapport de pouvoir et tout ça. Et ça, le podcast Camille, qui est aussi produit par Binge Audio, c'est vraiment un podcast sur tout ça, en fait, aussi, sur ce que c'est l'hétéronormativité et comment on peut en sortir et tout ça. Donc, je suis ravie que ça vous ait parlé aussi. Et oui, en fait, j'ai très fort pensé, il y a un épisode, enfin, le chapitre 6 dans le livre qui s'appelle Le marché du cœur, sur la consommation et tout ça. Bah oui, en fait, c'est aussi nourri de plein de conversations que j'avais eues avec des amis gays, moi, avec des proches et plein de lectures. Voilà. Mais c'est vrai que Non, j'ai quasiment pas été interviewée d'hommes gays.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'aimerais bien rebondir sur l'escalator, justement.
OK.
Moi, je suis dans une relation non monogame.
OK.
Je suis polyamoureux.
OK.
Et j'ai gravi cet escalator peut-être un peu vite. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Et du coup, est-ce qu'il est possible, en fait, de descendre cet escalator? sans blesser une amoureuse, justement. Mais ça peut être pour n'importe quel type de relation en général.
Ouais. Alors, est-ce que c'est possible de... Non, mais en fait, tout est possible. Et aussi, on ne dit pas... parfois, on fait du mal aux gens et tout ça. Mais disons, la réflexion qui me paraît... pour décaler un peu la réflexion, cette histoire de... Parce qu'en fait, c'est beaucoup revenu. Voilà. C'est ça que j'ai un peu fait quand tu as dit polyamour et tout ça, parce que c'est énormément revenu. En fait, ce qu'on raconte dans l'épilogue, c'est qu'on a eu un enthousiasme, mais je crois que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais vraiment, il y a eu un grand enthousiasme de plein de mecs polyamoureux qui trouvaient que c'était super bien, cette histoire d'escalator, parce que ça leur permettait d'expliquer à leur meuf pourquoi c'était ringard de prendre soin d'elle, en fait. Voilà. Parce qu'eux, ils voulaient pas d'engagement, ils voulaient pas habiter ensemble, ils voulaient pas se marier, ils voulaient pas faire des enfants, ils voulaient l'avoir quand eux, ils voulaient, et puis c'est tout, et puis chacun était libre et tout. En fait, voilà, le problème, quand on met tellement l'accent sur la liberté, c'est que s'il n'y a pas de conscience de à quel point le monde dans lequel on vit, il est fait d'inégalités, la liberté, elle n'est pas possible. Et en fait, c'est les personnes qui sont dominées structurellement qui perdent systématiquement. Et là, même si moi, j'ai été nourrie aussi de littérature polyamoureuse, je trouve que la non-monogamie peut être une aventure passionnante qui peut se faire avec beaucoup de soins, dans le consensus et tout ça, mais là, ce que je vois, c'est que l'idéologie polyamoureuse est en train de se transformer en une nouvelle arme de domination masculine. Ça me paraît très clair. En fait, c'est-à-dire de tas de mecs qui se servent de ce concept pour ne pas prendre soin, en fait. Voilà. Et pour dire, du coup, je fais ce que je veux, parce qu'en fait, on est libre. Et puis, à la fin du livre, je reproduis aussi les propos d'une autrice qui est Anaïs Bourdet, qui disait dans une story, mais j'en peux plus de tous ces mecs qui se... Je suis hallucinée de la vitesse avec laquelle ils ont déconstruit la monogamie amoureuse. Mais par contre, pour déconstruire la masculinité, les violences sexuelles, lutter contre et tout, il n'y a plus personne, en fait. Là, ça siffle, ça a poney ou ça a piscine, quoi. Mais il n'y a pas... Par contre, d'avoir... En fait, voilà. Et donc, ce qui m'interroge tout le temps, mais c'est vrai qu'on a, on a tellement insisté sur la notion de pouvoir, le fait que le pouvoir, ça disparaît jamais des relations, qu'on ne peut pas faire comme si nos relations, on les vivait dans un vacuum, quoi, comme si on n'était pas pris tous, comme tous et tous, tu vois, dans des logiques de pouvoir. Et donc, est-ce que c'est possible de descendre et tout? Il faut en parler avec la personne et puis avoir bien conscience des rapports de domination en place. Voilà, en fait, c'est pas pareil. Je pense à plein de cas, mais le pouvoir, il est influencé par combien gagne l'un et l'autre, par exemple. C'est influencé par quel âge a l'un et l'autre. C'est influencé par le niveau d'éducation. C'est influencé par la classe sociale. C'est influencé par tout ça. Et donc, en fait, t'as plein de gens qui vont dire « Non, mais nous, on a décidé comme ça. » Mais quand tu regardes de plus près, c'est pas vrai, en fait. Ça n'a pas du tout été un consensus. C'est un rapport de pouvoir où, en fait, plein de meufs acceptent des relations. Et je pense que ça se passe beaucoup dans le polyamour parce qu'elles n'ont pas le choix, en réalité. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, comment on fait? On n'a pas de recette magique pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais ce sur quoi on insiste tout le temps dans le podcast, c'est d'abord le soin, en fait. Le fait de prendre le temps. Et ça, les mecs ne sont pas socialisés à ça, très peu. Au cœur émotionnel que ça demande, n'importe quelle relation. Et au travail que ça demande. Je pense que toute relation demande beaucoup de travail. Et du coup, si t'es polyamoureuse, t'en as plusieurs, ça demande encore plus de travail, en fait. Et donc, faut passer beaucoup, beaucoup de temps, quoi, à se mettre à la place de l'autre, à essayer d'envisager les choses de son point de vue, à essayer de, dans tes actions et dans tes paroles, de pas blesser, de donner assez d'informations, de voir, d'être capable de t'excuser, de reconnaître tes erreurs. Enfin, tout ce taf, en fait. Voilà.
Merci.
Deux semaines après cette rencontre, Naomi Titi, la productrice du Cœur sur la table, et moi sommes allés à Nantes à l'invitation de la librairie Durans, qui avait carrément loué une salle de spectacle pour cette rencontre. Il y avait environ 200 personnes. Merci à elles et eux, et merci à Jonathan, le libraire, pour son entretien très bien préparé. Au début, on a beaucoup parlé de la construction du livre, de mon parcours, de Binge Audio Édition, mais ça, vous pourrez l'écouter dans un autre épisode sur les coulisses de ce programme. Là, on vous fait écouter directement la partie de la discussion qui traite du fond des idées, avec cette question de Jonathan.
J'ai une question qui m'a été transmise par quelqu'un. Je vais la lire parce qu'elle est un peu plus personnelle. Je vais essayer
par quelqu'une.
Merci. Je vais essayer de la formuler le plus clairement et finalement possible. J'en profite pour remercier cette quelqu'une, Marie. Il y a ces mots. Hein. Il y a une catégorie qui apparaît un peu moins d'autres dans le podcast. Ce sont ces femmes, ces mères qui travaillent et alors qu'elles sont éveillées à ces questionnements, sont prises elles dans ce modèle de couple hétéro et donc dominé par le patriarcat. Est-ce que la parole de ces femmes n'est pas invisibilisée? Elles sont entourées de gens qui prennent ou pas parfois des chemins radicaux, mais elles, dont la société ne veut pas entendre la voix, où sont-elles? Est-ce que vous en avez rencontré et comment les écouter? Voilà.
Alors c'est vrai que dans le podcast, on l'a souvent fait remarquer, donc dans le livre aussi, il est peu question d'enfants. C'est comme si les gens qui parlaient, en fait, il y en a assez peu qui ont des enfants. Parce que je trouve que ça rajoutait une couche, en fait, hein, les enfants.
C'est
de complexité,
c'est,
quoi.
C'est exactement ça.
Ouais, bah voilà, c'est ça.
Plein de couches.
Ah oui, bah oui, exactement, mais c'est ça. Alors on refuse pas toujours de les entendre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pareil, la question de la famille, la question de ce qui se passe quand il y a des enfants et tout ça, c'est souvent une question qui est vue que sous un prisme intime et on explique aux mères de se démerder, en gros. Mais là, on voit bien qu'il y a plein de mouvements féministes qui visent à politiser ces vécus-là. Je pense notamment au mouvement Mon Postpartum, qui a été initié par Ilana Wiesman. Et puis que, de toute façon, ça repose des grandes questions de pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à travailler. Ça repose la question, là, vous citiez le livre de Lucille Quillet, Le prix à payer. Excellent livre, où elle fait le bilan aussi de ça, de tout ce que l'État, par exemple, économise comme argent sur le dos des mères, en particulier, en ne n'ouvrant pas assez de crèches, en ne payant pas... En ne faisant pas en sorte que les femmes soient payées comme les hommes, en faisant comme si, en fait, les gens... Comme si les mères, on attend d'elles qu'elles travaillent comme si elles n'avaient pas d'enfants, qu'elles s'occupent de leurs enfants comme si elles n'avaient pas un emploi. Et toute la société tient là-dessus, sur le travail invisible et gratuit, et énorme, des femmes et des mères en particulier. Donc ce que j'aimerais, c'est que dans la suite des travaux, de faire entendre ça. Mais je trouve qu'on commence à les entendre de plus en plus, et heureusement.
Je vous remercie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Question très simple, quand on prend conscience de tout ça, tout ce qui se passe, de patriarcat, etc., comment on fait le soir pour regarder son mec dans les yeux et encore l'aimer?
Ouais, je suis très contente que vous me posiez cette question parce que c'est la grande question de l'hétérosexualité, en fait, vraiment. Voilà. Et en plus, là, en ce moment, je me fais vraiment beaucoup, beaucoup attraper la veste, comme je dis, sur les réseaux et tout. Je comprends. En gros, le débat est le suivant. C'est comment... Est-ce que tu peux, si tu regardes vraiment tout ça en face, continuer à désirer des hommes, en fait? Pourquoi est-ce que tu continues à les désirer? Donc, il y a des personnes qui vont me dire « parce que tu ne veux pas perdre ton privilège d'hétérosexuel ». C'est possible. D'accord? Je ne crois pas que ce soit la seule raison. Comment on fait? Eh bien, je pense... qu'il y a une crise de l'hétérosexualité, là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de plus en plus de meufs qui disent que c'est pas possible, en fait, elles peuvent plus, en fait. Voilà. Et donc, une espèce de blague un peu... qu'on faisait dans l'équipe du cœur, et puis même à Binge, c'était de dire combien de séparations on va encore provoquer, en fait. Plein de fois, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, en réalité, parce que oui, en fait, énormément de relations entre les hommes et les femmes sont violentes. De fait, je pense que voilà, c'est tout l'objet de du cœur aussi, c'était de se dire comment ça se fait qu'on vit dans une culture qui a tellement confondu l'amour et la violence.
pourquoi il y a des formes de violence qui sont à ce point normalisées. Et que c'est ça ce que l'hétérosexualité fait aux femmes aussi. Les tenir, leur couper leurs possibilités, les tenir enfermées, leur faire accepter leur victimisation, leur faire accepter leur exploitation, en appelant ça de l'amour. Donc c'est pour ça que donc c'est une question que je prends très au sérieux, et que dans le cœur, à chaque fois, dans chaque chapitre, dans chaque épisode, il y a des voies de sortie de ça. Et alors, je sais qu'il y a plein de gens, des femmes en particulier, que ça fait hurler quand je dis ça, mais je maintiens qu'une des voies possibles est le lesbianisme politique, mais que ça n'est pas la seule. Voilà. Mais que ça n'est pas non plus l'éducation des hommes. Par exemple, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, en réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas aux femmes d'aller éduquer leurs mecs, en fait. Vraiment pas. C'est de la charge en plus. Je pense plus qu'en fait, en tout cas, ce à quoi je crois, c'est donner le plus de pouvoir possible aux personnes qui sont minorisées ou qui sont exploitées et tout, mais le plus de pouvoir intérieur aussi, donc le plus de conscience de ce qui est en train de leur arriver, qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'en fait, ce qui est en train de leur arriver est quelque chose de politique, que ce n'est pas elles qui ont un problème, qui sont folles, qui sont tarées, qui sont hystériques, qui en veulent trop, qui sont trop exigeantes et tout ça. Et que retrouver du pouvoir, ça repasse par des choses très concrètes, renouer avec son corps, aimer son corps, ne pas s'insulter toute la journée en passant devant la glace, ne pas en vouloir aux autres femmes, ne pas trop en vouloir à sa mère, trouver des sœurs, revaloriser ses amitiés féminines, enfin, tous ces trucs qu'on a dit dans le podcast, qu'on renomme encore des choses, parce que sinon, ça irait pas de dire, par exemple, quittez votre mec, et puis c'est tout, il y aura que ça. Ben non, parce que je pense que ça recommence, en fait, après, si on n'a pas dénoué les trucs. Donc, du coup, la façon dont le cœur est construite, c'est on a essayé de refaire sauter des petits verrous à chaque fois, dans chaque épisode. C'est pour ça que c'est construit comme ça. Donc, du coup, comment on fait? Ben, parfois, on fait pas. Parfois, on peut plus. Quand on a les moyens de se séparer. Mais encore une fois, le grand problème, c'est que beaucoup de femmes n'ont pas les moyens de se séparer, en réalité. Et puis, il y a d'autres personnes qui... et on pourra dire que peut-être elles sont aliénées, peut-être... voilà. Mais moi, je suis très amoureuse, par exemple. Mais j'estime que je ne suis pas non complètement aliénée, en fait. Voilà. Mais encore une fois, c'est d'autres conditions de relation. Donc, je n'irai pas donner des leçons aux gens sur comment faire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment on redonne le plus de pouvoir possible aux femmes et aux minorités en général. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Oui, merci.
Merci.
Bonsoir, merci pour votre travail. Moi, c'est une question qui m'empêche parfois de dormir la nuit. Comment est-ce qu'on fait quand on côtoie beaucoup de jeunes, parce qu'on est une grande sœur, une maman, ou qu'on travaille avec eux, pour aborder ces questions-là avec eux, mais sans qu'ils nous disent « j'ai pas envie de grandir dans ton monde ».
Et ils vous disent ça ?
Oui, moi je travaille avec des jeunes et ils m'ont déjà dit, mais quand je discute avec mes parents, ou plutôt quand ils discutent avec leurs frères et sœurs, ils m'ont déjà dit, mais en fait, mais ça donne pas envie. Moi, ils se rendent pas compte qu'après m'avoir dit tout ça, bah, je peux plus dormir, j'arrive pas, je me pose trop de questions. C'est des jeunes, des collégiens, moi, qui m'ont déjà dit ça. Ou même mes petites sœurs, elles me le disent souvent.
Mais sur quoi en particulier? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'elles veulent dire?
Eh ben, ils parlent, alors évidemment, le capitalisme, la crise climatique, mais ils parlent aussi de l'amour, de cette sensation qu'ils n'arriveront pas à trouver leur place dans l'amour, ou de manière générale, que l'amour n'existe pas. Moi, j'ai une tante de 14 ans qui me parle du lesbianisme politique parce que déjà à 14 ans, elle s'est confrontée à ces questions-là. Moi, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est toujours trop bien pour elle, honnêtement.
Ah ouais? Est-ce qu'on peut définir lesbianisme politique? Lorraine, je t'en prie. Non. La micro, t'es-tu pas? Ok. Oui, c'est vrai, parce qu'on lance les mots comme ça, là. Donc, c'est faire le choix. Mais Lorraine, tu me dis, hein, si tu peux compléter. Voilà. Donc, dans une formule un peu malheureuse, j'avais dit, on peut choisir de devenir lesbienne. Ça se passe pas exactement comme ça. C'est-à-dire, on peut avoir des attirances... pour des hommes ou pour des femmes ou autres, donc être bi en fait, et choisir de ne plus relationner avec des hommes cis. Voilà. Et on peut faire ce choix-là et se dire que c'est un choix politique de le faire. Voilà. Ça te va? Je parle sous ton contrôle.
Non. Je ne contrôle rien du tout. Merci.
Et donc, en fait, c'est un courant, voilà, qui a été théorisé, sur lequel il y a des textes. Donc, je pense à Monique Wittig, je pense à Adrienne Rich, qui donc analyse, dans le cas d'Adrienne Rich, la contrainte à l'hétérosexualité,
et de se dire on peut sortir de cette contrainte là et on peut et qu'en fait de ne plus relationner avec des mecs cis, ça veut dire ne plus se faire exploiter son travail sexuel, émotionnel, domestique, est une action politique et libère en fait et ouvre des possibilités infiniment plus libres et plus et transforme la société. Voilà. Tu veux rajouter un truc?
En fait, c'est un très vaste débat, mais je crois que ce qui a déchaîné un peu les passions lors de ton intervention à Combini, qui a été coupée, où tu parlais de lesbianisme politique en disant notamment l'une des façons de ne plus avoir à s'endormir le soir en regardant son mec dans les yeux alors qu'on a envie de lui crever, c'est devenir lesbienne les meufs. Et de la part d'une meuf hétéro, évidemment, il y a plein de personnes comme moi qui ont fait « pardon ». Bon, on a débriefé au téléphone, tout va bien. Mais il y a plusieurs choses là-dedans qui peuvent être perçues comme problématiques et c'est hyper chouette que tu le contextualises et que tu redonnes un petit peu l'ensemble de ta parole, une parole plus complète là-dessus parce qu'en fait, l'interview avait été coupée. Mais dans cette déclaration, il y a plusieurs choses qui sont problématiques, évidemment. Il y a d'abord le fait que, de la même façon qu'on te dit « en fait, t'es hétéra, tu pourrais arrêter », non. Eh ben non, on décide pas de devenir lesbienne, évidemment. Et décider que que l'orientation sexuelle est un choix pour plein de raisons, c'est très problématique et ça peut donner lieu à des dérives qui sont très problématiques et ça peut justifier des façons de penser qui sont très problématiques.
Donc là, pour préciser, c'est-à-dire, en fait, par exemple, c'est la rhétorique sur laquelle se basent les gens qui font des thérapies de conversion, par exemple. Donc, c'est ce qui m'a été reproché aussi, c'est-à-dire de dire ça, c'est comme si tu disais à des personnes homosexuelles, écoute, tu peux tout à fait choisir de devenir hétéro. T'as qu'à le vouloir. Donc, bien sûr que non, c'est pas du tout la même chose. Et là-dessus, ça ouvre des questionnements passionnants sur est-ce que l'orientation sexuelle, c'est quelque chose de born this way, comme on dit, on est né comme ça, ou pas. Et ce qu'ont montré les lesbiennes politiques, c'est aussi que, c'est, justement, dans Adrienne Rich, dans La contrainte à l'hétérosexualité, c'est que c'est une contrainte, donc c'est un type de socialisation, c'est le fait de vous élever là-dedans, en fait, dans l'hétérosexualité obligatoire. Tu voulais compléter ?
Oui, mais en fait, on est complètement d'accord là-dessus, et je pense que l'une des clés, effectivement, de compréhension du lesbianisme politique, c'est notamment le fait que la bisexualité est complètement invisibilisée, la plupart du temps, que c'est quelque chose dont on parle jamais, parce que c'est encore considéré d'un côté comme de l'autre comme une espèce d'absence de choix, n'importe quoi. Et l'une des solutions, effectivement, pour sortir de l'hétérosexualité compulsive et de l'hétérosexualité normative et imposée, c'est, en tant que femme, ou en tant qu'homme, évidemment, ou en tant qu'autre, d'aller visiter, en fait, les différentes attirances qu'on a pu éprouver et de re-questionner, en fait, l'hétérosexualité normative et qu'on nous a imposée parce qu'il y a des champs qui sont fertiles là-dedans et qu'on a souvent pas eu la place, pas eu le temps et pas eu l'éducation, et pas eu les modèles d'explorer. Voilà.
Super, merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup pour tous ces podcasts. Moi, personnellement, ça m'a apporté énormément. Mais j'ai une question, elle sera peut-être mal formulée. C'est comment... ce qui m'inquiète un peu, c'est un peu l'entre-soi, même si, bien sûr, on n'est pas que dans l'entre-soi, puisqu'on progresse à chaque fois et on apprend tellement, mais c'est plus comment aller à la rencontre des publics, personnes non sensibilisées ou réfractaires, et donc finalement permettre de tendre une main vers une évolution, on va dire, plus populaire, plus générale. Mettez en place ce qui m'inquiète, c'est que les personnes écoutant éventuellement vos podcasts seraient éventuellement des personnes qui seraient déjà prêtes à entendre tout ça et donc déjà sensibilisées, déjà dans des conditions de vie peut-être confortables pour se mettre en mouvement. Donc comment on fait pour toucher l'autre public, en fait, qui quelque part a plus de mal à aller vers ce que vous faites? Enfin, vos réflexions.
Alors, je comprends. Alors, bon, déjà, sur qui écoute, pourquoi et tout. Oui, en fait, des podcasts, on tombe pas dessus. En fait, faut aller l'écouter, avoir le temps de le faire, avoir l'envie de le faire, que ça corresponde aux questions, etc. Je m'illusionne pas. Je sais bien qu'il y a des tas de trucs qu'on fait. Plein de gens, ça leur passe complètement au-dessus, ça leur parle pas du tout. c'est pas du tout accessible. J'essaye de le faire, ça. J'estime que c'est dans mon rôle de journaliste de par exemple, d'expliquer tous les termes compliqués, de rendre ça agréable à écouter. Mmh. Voilà, mais bon. Après, sur la démarche de comment toucher d'autres publics, etc., je crois que je suis pas hyper à l'aise avec ça. Parce que ça ferait comme si, quoi, on a des vérités, puis on veut les...
Ah non, c'est les pas répondre, cette idée-là, c'est dans l'idée plutôt d'un échange collectif, en fait. Il n'y a pas de prêcher une bonne parole, mais oui, plus d'aller à la rencontre, en fait. D'aller à la rencontre de personnes qui, éventuellement, ne viendront pas, ne trouveront pas ce chemin-là, jusqu'à vos créations, en fait, jusqu'à votre travail. Mm. Est-ce qu'il y a des moyens, d'autres plateformes, peut-être, ou d'autres... par exemple, de passer par, je sais pas, des structures, on va dire, d'éducation populaire, où là, on va rencontrer d'autres personnes et être en réflexion collective, et effectivement, pas du tout dans une sorte de j'ai la solution et je vais vous la donner, mais non, d'être à la rencontre de ceux qui ont plus de mal à être sensibilisés à ces questions et à y avoir accès. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez et,
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, le podcast, ça me paraissait une voie idéale parce que vraiment, c'est facile d'accès, c'est gratuit, y a tout ça. Mais après, je connais pas du tout les domaines de l'éducation populaire et tout ça. Je suis même pas sûre de savoir trop comment, où, comment, de quoi et tout. Oui, je sais pas trop quoi répondre à ça.
Pardon alors.
Non, j'ai dit vous posez vos questions, donc oui, c'est plus. Enfin, je me dis voilà, j'essaye de faire un truc qui me paraît juste et tout, puis ça se trouve il y a des gens qui vont trouver que c'est mal fait, mal dit, etc., qui vont refaire eux-mêmes leur propre truc. Mm-hmm. Je sais que les podcasts ils sont parfois utilisés en classe par des enseignants. Je me suis aussi dit que ces podcasts ça servait à justement pour toutes les meufs épuisées à ne pas faire d'éducation. En fait, souvent, on me dit, moi, j'utilise tes podcasts. En fait, quand j'en ai marre d'expliquer un truc, je dis, vas-y, écoute ça et on en reparle après. Donc, je suis ravie. Voilà. Donc, ça sert à ça. Mais après, en fait, les grands changements politiques et tout, mais je sais pas si c'est au... D'où ça vient? Ça vient du militantisme très concret, non? De s'engager dans toutes sortes de partis, d'actions. C'est ça qui fait bouger la société, non?
Oui, alors du coup, je me dis que c'est peut-être simplement comment dire, quelque part, peut-être c'est pas votre rôle à vous. Peut-être que vous, le chemin, il est sur le militantisme, on va dire un peu plus, je sais pas, un peu plus direct, par exemple. Et auquel cas, d'autres personnes saisiront ça pour aller s'en servir comme outil. Pour aller à la rencontre encore d'autres personnes qui le reprendront et le remâcheront encore de. Ouais.
Et en plus, je me considère même pas comme militante.
Oui.
Je suis pas militante, en fait.
Oui, d'accord.
Voilà, j'essaie de faire mon travail de journaliste, d'autrice et tout, en écoutant beaucoup ce qui se passe dans les milieux militants féministes, notamment. Mais moi-même, je me sens pas militante. J'ai l'impression que je me sers comme passeuse, en fait. J'estime que mon job, voilà, moi je suis payée, en fait, j'estime que j'ai eu tout un tas de privilèges, notamment de faire des études. L'État m'a payé des bonnes études. Je viens d'un milieu social, on fait des études et compagnie. Donc, j'estime que du coup, mon rôle, c'est de me servir de ça, là. Du fait que, on m'a adressé à lire plein de livres. Je viens dans des conditions confortables et tout. Et de poser des bonnes questions, d'organiser les productions, les interviews... de le faire bien, notamment pour les personnes qui n'ont pas envie de lire des livres ou pas les possibilités de le faire et tout. Et voilà, et d'essayer de faire ça bien. Et ensuite, comment c'est utilisé, pour quelles actions et tout ça. Par exemple, je te dis, je ne suis pas militante parce que je ne participe pas à des actions, par exemple. Enfin, ou à titre privé. Genre, je vais manifester, mais je ne vais pas appeler à aller faire telle ou telle chose. Voilà.
D'accord. Voilà. Merci.
Merci beaucoup.
Oui, bonsoir. C'est bonsoir. Encore moi.
Salut, re-salut.
Re-salut. Ouais. Alors, par rapport à la discussion de tout à l'heure sur le lesbianisme politique, en fait, ça me questionne parce que j'ai l'impression que ça invisibilise les rapports de domination en fait, qu'il y a dans les couples au-delà du genre. Et du coup, en fait, le lesbianisme, pour moi, n'est pas une solution miracle, dans le sens où il peut reproduire, dans un couple homosexuel, on peut très bien reproduire l'hétéronormativité, notamment dans les rapports de domination, de pouvoir, en fait. Du coup, parler de ça, s'il vous plaît.
je vois des mains qui se lèvent, peut-être. En fait, typiquement, ça, je me suis pas assise un jour en disant « Ah bah tiens, je pense tout ça de l'amour et toi, ça fait un podcast. » Genre, j'ai lu des tas de trucs quand même pour voir c'était quoi les débats en cours et tout ça. Et ça me paraît être un argument intéressant. C'est pour ça que, par exemple, il y a un épisode que vous retrouvez dans le livre sur le marché du cœur où il y a Costanza Spina qui redit ça, en fait, très bien, que c'est pas... En fait, que le pouvoir, ça disparaît jamais. Donc, on peut reproduire sans arrêt... des relations de domination. Et Juliette Drouard, dans Sortir de l'hétérosexualité, l'explique aussi très très bien qu'en fait, c'est la domination qui est à abolir. Voilà. Mais il ne s'agissait pas non plus de dire... Enfin, voilà, de dire « Ah bah non, bah du coup, c'est pareil, donc en fait, ça n'a aucune importance, hétéro, lesbienne... » C'est pas... Non, c'est pas vrai non plus. Donc la question lancinante pour moi, c'est « Ok, comment on fait pour sortir de la domination ?» Voilà. Mais... Le lesbianisme politique peut être... Et encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Je ne pense pas, même pas, que les lesbiennes politiques disent ça. Mais c'est une des voies. Ça ne sera pas pour tout le monde. Et pour beaucoup. Ça vaut le coup de le dire. Voilà.
Oui, ça peut être aussi l'hétérosexualité éclairée.
C'est la grosse question. Est-ce que ça existe et tout ? Parlons-en, hein. C'est clair. C'est vrai, on nous a beaucoup... Enfin, là, c'est pour ça que les féministes hétéras, là, qui parlons d'amour... Enfin, donc, je vais parler pour moi. Je marche un peu sur mes petits souliers, là, tu vois, en disant... Tiens, non mais parce que quelque part ce serait plus facile en fait aussi de dire, et puis plus radical, et puis plus cool, et puis tout ça, bon, de dire, les mecs, il n'y a rien à en tirer, il ne faut aucune relation avec eux, et tout, mais c'est, parfois je le pense. Mais, encore une fois, encore une fois, comme je suis aussi à une espèce, parce qu'on est beaucoup dans ma tête là, il y a une victoire pragmatique en fait qui dit, ok, en attendant, il apparaît que pour un certain nombre d'années encore, il semblerait qu'on va avoir des relations les uns les unes avec les autres en fait. Hein. On peut pas trop, plein de situations, on peut pas y échapper quoi. Qu'est-ce que tu veux ? On a des frères, on a des pères, on a des fils, et puis des fois, on a des mecs, on est amoureuse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ben, voilà, c'était ça aussi la question que je posais.
Non, mais je suis pas misandre, hein. J'ai des amis hommes.
Voilà. Et moi, je suis misandre aussi, bien sûr. C'est ça que ça m'a appris les couilles sur la table, en fait, à regarder en face ça. Bien sûr que je suis misandre. Évidemment. Ça veut pas dire que je les déteste tous. Hein.
Non, vous avez un voisin.
Non, encore une fois, je suis très amoureuse dans ma vie. Voilà. Et d'hommes si c'est hétéro. Eh. Voilà. Donc j'essaie de... Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de vivre avec ce truc-là. On peut dire, arrête, c'est quoi, c'est si magré et tout, mais je... Et en ça, bon, il y a Stéphanie Meyer qu'on entend un tout petit peu dans un épisode, mais je recite sa thèse dans le livre. Stéphanie Meyer, qui est une politiste québécoise, a écrit une thèse géniale qui s'appelle « Regard féministe sur l'hétérosexualité contemporaine », et elle parle de ça, de cette tension-là. Et c'est cette tension-là qui m'intéresse. Comment on fait ? Et non pas comment on fait pour rendre l'hétérosexualité comme acceptable, aménager son couple, faire l'éducation des mecs et tout, c'est pas ça. Mais quand même, il faut quand même en parler, non ? De ça, de, encore une fois, comment on fait avec cette situation ? C'est quoi les techniques de résistance ? C'est quoi les techniques de guérilla quotidienne ? C'est ça aussi, je voulais faire le répertorier ça. Et ce que dit Stéphanie Meyer, et c'est ce que je dis dans l'épilogue, et vous allez l'entendre aussi, c'est que, en fait, ça passe par accepter qu'il y aura du conflit tout le temps. Qu'il y a du rapport de force tout le temps. Là où on pensait les relations amoureuses comme étant un lieu, une oasis séparée du reste de la société, où on serait comme ça dans des rapports idylliques et tout. Pas du tout. On va se friter tout le temps. C'est normal. Mais la question, c'est de comment on va apprendre à gérer ce conflit-là, quoi, et que ça repose pas uniquement sur les épaules des meufs, qu'encore une fois, ça leur redonne beaucoup de pouvoir. D'accepter ça aussi. Et non pas d'accepter leurs conditions, de ça changera jamais, ou de s'épuiser à changer leur mec ou à l'éduquer et tout ça. C'est pas non plus ça. Voilà, je sais pas, j'ai l'impression d'être vague, mais je crois que moi je vois ce que je veux dire. C'est bon ?
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.
Merci Jonathan.
Dans les deux épisodes suivants, vous pourrez entendre la suite de ces rencontres. Il sera question des alliés masculins et puis de combien je gagne, entre autres. Merci à la librairie Ici Grand Boulevard à Paris et à la librairie Durance à Nantes de m'avoir invité. Merci à Jules Cros qui a enregistré la rencontre à Paris et aux équipes de Panonica d'avoir enregistré celle de Nantes. On s'est chargé du montage avec Naomi Titi et Elisa Grenet a fait la réalisation. Merci pour votre écoute. Le Cœur sur la Table est un podcast de Binge Audio. Vous retrouverez tous nos podcasts sur toutes les plateformes ainsi que sur le site binge.audio. Merci et à bientôt.
Découvrez vite la première ovo-sitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige.
Marie, c'est moi, et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants, et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes? Comment j'en suis arrivée là? Est-ce que j'en veux, des enfants? Et surtout, pourquoi on fait des enfants, en fait? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
Marie et les œufs en neige, c'est une série en 6 épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.